Qui d'entre vous, dans la dernière année, a été opéré de la cataracte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a encore Evelyne et Josiane. Et Paulette. Alors, vous voyez. Alors, je vais vous donner la définition de la cataracte. La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette opacification est responsable d'une baisse progressive de la vue, au début accompagnée de gêne à la lumière. Et je vais aussi vous donner la définition de la cécité. La cécité est un manque de vision. Bon, ça c'est normal. Cela peut également faire référence à une perte de vision qui ne peut être corrigée par des lunettes ou des lentilles. Une cécité partielle signifie que vous avez une vision très limitée. La cécité totale signifie que vous ne pouvez rien voir et que vous ne voyez pas la lumière. Alors, j'étais surpris par cette dernière petite phrase, que vous ne voyez pas la lumière. Alors, vous avez compris que ce matin, nous allons parler de vue. En effet, le plus long récit de miracle de Jésus est celui qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9, et c'est le récit de l'aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus. Jésus accomplit ce miracle parce qu'il a quelque chose à dire aux disciples, aux pharisiens, à la foule et à nous aujourd'hui. Mais regardons le contexte de ce récit. Au chapitre 7 de cet évangile de Jean, Jésus va à la fête des cabanes, qui durait 8 jours. Elle rappelait l'époque où les Israélites vivaient sous des tentes dans le désert après la sortie d'Égypte. Et ils en ont fait une fête annuelle. Des Juifs venus de tout le pays se rassemblaient à Jérusalem à cette occasion. Et aujourd'hui, il y a encore des Juifs fidèles qui, pendant cette période-là, dorment sous des tentes. S'ils n'ont pas de jardin, ils mettent une tente dans leur salon ou salle à manger pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour eux. C'est fort. Parce qu'aux yeux des autres, ça semble un peu ridicule, n'est-ce pas? Et nous, tout à l'heure, nous allons faire la même chose. Ce ne sera pas à la fête des cabanes, mais nous allons, avec la scène, nous rappeler quelque chose de très important. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus commence à se faire connaître et ses opposants aussi. Son enseignement parfait étonne. Comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié, dirent-ils. Et Jésus de répondre, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. En effet, tout lui vient de la communion avec le Père. » La foule conclut qu'il a un démon. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas savoir tout ça. Ça lui vient d'un mauvais esprit. Ensuite, Jésus lance à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Alors là, les personnes se divisent, pour ou contre Jésus. Les uns disent c'est un prophète, d'autres disent que c'est le Messie, et d'autres disent le Messie ne peut pas venir de Galilée. Mais les gardes envoyés par les religieux rentrent bredouilles et disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Le chapitre 8 commence par un piège. Les religieux amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère et ils pensent mettre Jésus en défaut. Lui le gentil, qu'est-ce qu'il va dire? qu'est-ce qu'il va faire ? Faut-il la lapider comme le prévoit la loi de Moïse ? C'est écrit. Jésus leur répond : que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et ils s'esquivèrent l'un après l'autre. Et à la femme, il dit : va et ne pêche plus. La suite de ce chapitre 8 va nous décrire des échanges entre Jésus et les religieux, qui vont aller en crescendo. Toujours à cause des paroles de Jésus. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Cette lumière met en évidence les actions des hommes, les nôtres aussi, bonnes ou mauvaises. Et Jésus est celui qui peut pardonner les mauvaises actions des hommes. Il explique que cette lumière lui vient de Dieu le Père qu'il a envoyé, ce qui veut dire qu'il est en relation directe avec le Père. Impossible à comprendre pour ces hommes qui avaient déjà un doute sur son origine terrestre. Il dit encore qu'il est fils de Dieu, verset 36. « Si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous serez réellement libres. » Et il leur reproche de ne pas écouter Dieu le Père comme le faisait Abraham, leur père spirituel. Et Jésus continue sa présentation. « Celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. » Waouh ! C'en est trop. Les religieux aussi disent qu'il a un démon. Il s'ensuit une discussion sur Abraham, leur père, et Jésus de rappeler que Abraham s'est réjoui de la venue du Messie. Et enfin, le clou de ces échanges, lorsque Jésus dit « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Un Dieu venu délivrer son peuple de l'esclavage. Il se compare à lui. C'est le sujet de la fête des tabernacles. Et à ce moment, ils se mirent à ramasser des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus disparaissait dans la foule. C'est là que Jésus sent qu'il faut une image forte pour que ses interlocuteurs saisissent l'importance d'avoir une vue qui leur permette de voir le plan de Dieu pour les hommes. Et nous arrivons à ce chapitre 9, où nous trouvons cette image, cette explication de l'importance de la vue. Et comme ce chapitre est assez long, pour changer un peu, nous allons écouter ce passage avec une vidéo.
On amena alors celui qui avait été aveugle devant les pharisiens. Le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait redonné la vue était un jour de sabbat. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue.
« Il m'a mis de la boue sur mes yeux. J'ai lavé mon visage et maintenant je peux voir. »
« L'homme qui a fait ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'obéit pas à la loi du Shabbat. Comment un homme qui commet des péchés peut accomplir de tels miracles ?»
Ils n'étaient pas d'accord entre eux.
« Tu prétends qu'il t'a guéri en te rendant la vue. Alors, que penses-tu de lui ?»
C'est un prophète.
Cependant, les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent entendu et convoqué ses parents.
Est-ce bien votre fils ? Vous prétendez qu'il est né aveugle. Alors comment se fait-il qu'il puisse voir ?
C'est bien notre fils, et je peux vous assurer qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour qu'il voie aujourd'hui, et nous ne connaissons pas celui qui a réussi à le guérir.
Demandez-le lui. Il est assez grand et il est capable de vous répondre lui-même.
Ses parents répondirent cela parce qu'ils craignaient les autorités juives, qui s'étaient mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, demandez-lui ». Les pharisiens convoquèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle.
« Maintenant, jure devant Dieu, que tu diras toute la vérité. Nous savons, nous, que l'homme qui t'a prétendument guéri est un pécheur.
Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Il y a une chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois.
Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment a-t-il fait pour que tu recouvres la vue ?
Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Peut-être que vous aimeriez aussi être un de ses disciples.
Ils l'injurièrent et dirent :
C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet usurpateur, en revanche, nous ne savons même pas d'où il vient.
Ah, voilà une bien étrange chose. Vous dites ne pas savoir d'où il vient, mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux vous voir. Nous savons que Dieu n'écoute pas ceux qui ont péché. Il n'écoute que ceux qui le respectent et qui agissent selon sa volonté. Depuis que le monde existe, jamais on n'a entendu parler d'un homme qui a pu donner la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il serait bien incapable de faire quoi que ce soit.
Tu es né et tu as grandi dans le péché. Et tu voudrais nous donner des leçons.
Et ils le chassèrent de la synagogue. Quand Jésus apprit ce qui s'était passé, il alla trouver l'aveugle.
Est-ce que tu crois au Fils de Dieu ?
Dis-moi qui il est, Seigneur, afin que je puisse croire en lui.
Mais tu l'as déjà rencontré. C'est celui qui te parle en ce moment même.
Je crois en toi, Seigneur.
Et il s'agenouilla devant Jésus.
Je suis venu dans ce monde pour le jugement. Pour que les aveugles puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Quelques pharisiens qui se trouvaient là entendirent ces paroles et lui demandèrent :
Tu ne veux pas dire par là que nous sommes également aveugles ?
Si vous étiez aveugle, vous seriez innocent. Mais puisque vous dites que vous pouvez voir, c'est que vous êtes encore coupable.
Que pouvons-nous souligner de cette belle histoire de guérison? J'ai relevé 3 points. Le premier, une leçon de guérison. Deuxièmement, une leçon de communication. Et troisièmement, une leçon de vue. Leçon de guérison. Tout de suite, nous avons affaire au terre-à-terre avec les disciples. Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents ? Alors ne généralisons pas, parce que notre Dieu peut effectivement utiliser une épreuve pour nous parler. Ce n'est pas à exclure. Mais les disciples semblent avoir oublié qu'ils sont en présence de celui qui ôte le péché du monde. C'est Jean, l'apôtre, le Jean-Baptiste qui nous le rappelle, qui a vu ce témoignage, ce voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Dieu peut aussi utiliser une épreuve de quelqu'un pour que cet éprouvé glorifie Dieu. Et c'est ce que dit Jésus. Il dit, ce n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui des parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Nous voici dans notre sujet, voir l'œuvre de Dieu. Mais avant de guérir cet homme, Jésus explique le fondement de son intervention. Il lui parle de la lumière. Je suis la lumière du monde. Il révèle ainsi sa messianité. Il ne va pas seulement le guérir de sa cécité, mais il va illuminer son être tout entier. Il va lui donner quelque chose que seul lui peut donner. Jésus met en lumière ce qui nous anime. Il est un révélateur, car toute son œuvre est lumière. Cette déclaration pourrait sembler provocante face à la cécité de cet homme. Mais en réalité, elle est libératrice. Parlons aussi du moyen de guérison surprenant, de la salive et de la boue. Je ne comprenais pas trop. C'était surprenant. Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé cette réflexion de Luc Réau. C'est un commentateur de la Ligue. Il dit ceci qui est vraiment magnifique. Donc, en parlant de Jésus, lui, dont la bouche proclame la parole de vie, mêle sa salive à la poussière dont nous sommes tous issus. Waouh ! Quelle compréhension de ce geste de Jésus pour guérir cet aveugle. Mais la boue n'a pas suffi. Il faut encore que cet homme obéisse à l'ordre de Jésus et d'aller se laver au bassin de Siloué. Et maintenant qu'il peut voir, Jésus a disparu. Quelle déception! Il aurait voulu voir son visage, le remercier, se réjouir avec lui, lui faire un peu de pub, peut-être. Mais cette absence de Jésus va lui permettre d'être tout de suite témoin de sa guérison. Il va voir ses parents, ses proches, ses voisins, ceux qui l'ont vu mendiant, pour leur partager sa nouvelle vie. Il donne des détails et nomme son bienfaiteur. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'a frotté les yeux, puis m'a dit « Va te laver au réservoir de Siloué ». Et c'est là qu'il affronte les premières contestations. « Es-tu celui qui était aveugle ou est-ce que tu lui ressembles seulement ?» Enfin, on le mène devant les pharisiens et là aussi, il aura l'occasion d'exprimer son opinion sur Jésus, alors qu'il ne l'a jamais vu. Chers amis, la guérison mène à la reconnaissance et au témoignage. Deuxième point, leçon de communication. Une enquête est ouverte. Elle n'est certes pas officielle. La foule est la première enquêtrice. Elle veut savoir la vérité. Et lorsque cette vérité ne lui convient pas, elle ne reconnaît même plus le mendiant restauré. Tandis que certains reconnaissent que c'est bien lui. Cet homme subit la même enseigne que Jésus. Il y en a qui comprennent et d'autres qui ne veulent pas comprendre. Les pharisiens qui ont une idée toute faite cherchent à démontrer l'exactitude de leur analyse. Il interroge l'homme ainsi que ses parents, mais ils vont être déçus. Car le miraculé prend de l'assurance et ses affirmations s'affinent au fur et à mesure de cette enquête. Les avis sont cependant partagés. Quelques-uns disent « cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat ». Mais d'autres, de la même race. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels miracles ? Lorsque nous avons l'occasion de partager notre foi, il faut toujours s'attendre à ces deux réactions. Mais l'interrogatoire est cependant tronqué. Les pharisiens avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme Messie. Les témoins sont donc sous pression. Ils ne peuvent plus s'exprimer librement car ils planent une atmosphère de suspicion. Rejetant Jésus, la lumière, les pharisiens finissent par mentir. Ils succombent au commandement de Dieu. Et après, ils insultent cette belle famille. Les pharisiens leur gâchent cette journée qui aurait dû être pour eux une journée de joie, une journée de fête, le plus beau jour de leur vie. Enfin, leçon de vue. Qui sont les vrais aveugles? La foule ou à l'homme guéri, mais pense finalement qu'il n'y a qu'une ressemblance avec lui. Quelle myopie! Les parents ne savent pas qui lui a rendu la vue, alors que leur fils leur a raconté ce qui lui est arrivé. Quelle peur de l'exclusion! Les pharisiens disent carrément que Jésus est un pécheur. Quelle cécité! Finalement, j'ai relevé cette phrase. Il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne peuvent pas mal voir. Deuxième point, c'est la progression de la foi de cet homme, maintenant qu'il peut voir Jésus. Il va affirmer sa foi en Jésus grâce au doute de ses contemporains et à la mauvaise foi des religieux. Quelle école ! Après avoir identifié l'homme qu'on appelle Jésus, l'aveugle guéri confesse que cet homme est un prophète, et plus loin, cet homme vient de Dieu. Sa foi progresse encore et aboutit à l'adoration de Jésus. Au verset 38. Et troisième point, la foi qui sauve. Avez-vous remarqué que Jésus n'interroge pas cet homme sur ses tracasseries lorsqu'il le rencontre? Il le questionne sur sa foi. Crois-tu au Fils de Dieu? Et Jésus pose cette question à chacun d'entre nous aujourd'hui. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus n'a pas besoin de défenseurs. Il veut des croyants. Non pour lui, mais pour leur salut. Et là, je me permets encore de citer Luc Réo avec son analyse. Si cet homme voit la noirceur du monde sans voir la beauté de la grâce, à quoi lui sert d'avoir recouvré la vue? À quoi bon être lavé des soupçons et des accusations émis contre lui s'il ne reçoit pas la vie éternelle? Waouh! Moi, j'aime. Alors, pour conclure, lorsqu'on apprend à examiner un tableau de maître dans un musée, la première chose, c'est de prendre du recul pour la voir un peu de plus loin. Prenons du recul et posons-nous cette question. Quelle est ma vue? Dans quel état est ma vue? Ai-je un début de cataracte? Ai-je un début de cécité? Une chose est certaine, ce n'est pas la faute de nos parents. Ceux qui connaissent qu'ils ne savent rien de Dieu peuvent ouvrir les yeux sur l'amour de Dieu en Jésus. Lui, la lumière du monde, qui veut éclairer tous les hommes. Mais ceux qui confisquent ou cachent Dieu, ce sont des aveugles qui pensent pouvoir guider d'autres personnes. Jésus nous attend tous. Est-ce que je suis prêt à voir sa main tendue? Est-ce que je veux voir la lumière du monde? Est-ce que je suis prêt à me laisser éclairer par elle? Mais comment s'y prendre? Vous savez quoi? La solution se trouve dans le chapitre 10, que je vous invite à lire à la maison ou cette semaine. Il nous faut un guide. Et le chapitre 10 dit ceci: « Moi, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Il est aussi le Dieu qui voit, qui nous voit. Et là, nous le trouvons au début de la Genèse avec Agar. Au chapitre 16, verset 13, elle dit « C'est toi le Dieu qui me voit. » Qui que nous soyons, Dieu nous voit et nous entend. Cela le caractérise. Faisons-lui confiance et approchons-nous de lui. Amen.